Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Cette semaine, Antoine, j'ai eu la chance de conduire les deux versions du Genesis GV80, donc le véhicule utilitaire sport de la marque de luxe coréenne. Un premier véhicule qui devrait se vendre à un volume intéressant, parce qu'auparavant, on avait trois berlines, et on sait que c'est peut-être pas ce qui est le plus populaire, du moins au Québec. Donc, on arrive avec un véhicule utilitaire sport de luxe. J'ai conduit les deux moteurs, 2.5 litres turbo-compressé, ou V6, 3.5 litres, turbo-compressé aussi.
T'en as pensé quoi? Parce que moi, j'ai conduit les deux véhicules en simultané.
Oui.
C'était à l'automne, donc avant que la neige arrive. Je veux dire, c'est deux philosophies différentes au niveau de la conduite. Je suis curieux de savoir un peu quel a été ton feeling.
Ben écoute, j'ai trouvé que le 2.5 suffisait. Donc c'est pas on le sent pas anémique, on sent pas qu'il a toujours besoin de forcer pour absolument rien. Donc non, à ce niveau-là, c'est correct, mais c'est sûr que quand on embarque dans un GV80 qui lui a le V6 3.5 litres, là, effectivement, on profite un peu plus de l'expérience. Il y a beaucoup plus d'équipement aussi. Et c'est sûr qu'en termes d'accélération, en termes de performance, on est à un niveau supérieur.
On peut jouer avec l'équipement, cela dit. Tu peux avoir pratiquement tout l'équipement d'un 6-cylindres dans une version 4-cylindres.
Oui. Et il faut peut-être faire attention parce que ça peut coûter cher assez vite. Mais bon, quand on regarde les concurrents, c'est le cas aussi.
Ouais.
Donc, en entrée de gamme, on est à 64 000, un peu plus de 64 000 $. Puis pour une version haut de gamme et à laquelle on peut rajouter des options, évidemment, on est à 80 000 $.
C'est ça.
Donc ça reste des sous importants. Les taux d'intérêt, par exemple, en location, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus avantageux. Ça oscille entre 4,5 et 4,9 %.
Ben en fait, donc, je pense qu'on veut vendre les véhicules plutôt que les louer, tout simplement parce que.
Mais on sait que dans ce segment-là, la location est populaire, là.
Oui, mais pour l'heure, on n'a pas réussi à avoir des valeurs résiduelles intéressantes. Donc, c'est difficile d'être compétitif à ce niveau-là, même si ALG a donné des valeurs résiduelles exceptionnelles.
La réalité est différente quand vient le temps de revendre ça.
Moi, je te dirais que pour avoir conduit les deux véhicules, j'ai trouvé que le 6-cylindres, bien que c'est plus doux au niveau du rendement, que la puissance est un peu plus intéressante, je peux pas dire qu'il y avait un monde de différence en termes d'accélération. Et j'ai trouvé que le 6-cylindres était beaucoup plus lourd et que ça se ressentait dans l'équilibre de conduite. Et l'autre chose qu'il faut mentionner, si vous optez pour une version 6-cylindres, vous êtes chaussé de jantes, si ma mémoire est bonne, de 21 pouces.
Oui, et ça se ressent
et
sur le
cogne pas à peu près.
Oui, effectivement. C'est de très belles jantes, là. Cela dit, moi, je trouve ça très, très chic. Mais effectivement, ça cogne. Et ça cogne surtout à l'arrière. Donc, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'on a fait aux suspensions à l'arrière.
Ouais.
Mais ça semble être bon marché. Ça cogne. Le derrière se dandine. Pour un véhicule de luxe de 80 000 $, moi, je suis déçu. Suis déçu de ça.
Et si tu vois, pour la version 2.5, tu vas avoir des roues. Là, je ne me souviens pas des diamètres par cœur, mais c'est 19 ou 20 pouces.
Donc plus raisonnable.
Et je trouve que non seulement l'équilibre des masses est meilleur, mais justement, parce que tu as un petit peu plus de viande au niveau des pneus, ça permet d'amortir un peu plus les chocs. Personnellement, bien que j'adore les moteurs à 6 cylindres, je choisirais probablement un moteur à 4 cylindres. Et c'est vrai aussi pour la berline G80, qui est une voiture à découvrir, vraiment une voiture très, très bien construite. En fait, qui m'a impressionné, je dirais, je veux pas dire un peu plus que le GV80, sauf qu'elle a moins de concurrentes. Elle va se démarquer davantage.
Les attentes étaient peut-être un peu moins élevées avec la G80 qu'on connaissait déjà, mais qui s'est améliorée.
En plus, c'est que si on part de l'ancienne génération, c'est un monde de différence, parce que cette ancienne génération-là de la G80, c'était un ancre à bateau, c'était lourd, c'était très inefficacement suspendu. Bref, c'est pas une voiture qui était très convaincante.
Peut-être une petite note aussi, j'ai j'ai noté les consommations. Donc, j'ai fini la semaine avec 10,9 litres pour le 4 cylindres et 12,5 pour le V6. Donc, une marge tout à fait raisonnable.
Dans un contexte hivernal.
Tout à fait honnête, voilà. Et on parlait de douceur du V6, oui, mais j'ai noté des à-coups à base
transmission.
Des à-coups à basse vitesse. Donc, quand on s'approche d'un stop, quand on s'approche d'une lumière rouge, un à-coup qui se fait sentir souvent, c'est pas quelque chose d'agréable. Et encore là, ben, quand on paye 80 000 $ et plus pour un véhicule, ben, on a droit à s'attendre à quelque chose d'un peu mieux que ça. De ton côté, un autre véhicule coréen dans une gamme bien différente.
Dans une gamme bien différente. On sait que la Sonata a été renouvelée l'an dernier chez Hyundai. Et cette année, on arrive avec une gamme franchement très complète. Donc, il y a 4 choix mécaniques. Moteur 2.5 atmosphérique en entrée de gamme.
Ouais.
Le moteur 1.6 turbo, qui ironiquement est moins puissant que le moteur 2.5 litres atmosphérique, mais qu'on offre sur des versions de catégorie supérieure. C'est la motorisation que je ne choisirais pas dans la Sonata, surtout qu'elle est combinée à une boîte séquentielle double embrayage. Et à mon avis, ça n'a pas sa place dans une voiture de ce genre-là. Une automatique 8 rapports conventionnelle peut très, très bien faire le travail. Donc, le moteur 2.5 litres d'entrée de gamme, pour moi, ça peut être une option intéressante. Ensuite vient la version hybride qui est...
Que j'aurai la chance de conduire, soit dit en passant, dans les prochaines semaines.
Bon, donc, alors on pourra en reparler.
On pourra compléter la gamme comme ça.
Je trouve dommage que l'hybride ne soit offerte que dans sa version Ultimate de grand luxe. Alors, ça amène le prix à un peu plus de 40 000 $. Et en ce qui me concerne, j'ai conduit cette semaine la version N-Line, la version de performance de la Sonata qui partage sa mécanique
avec la Kia K5. Est-ce que c'est
Kia K5 GT. Pas de rouage intégral et c'est la déception. Quoique l'effet de couple en accélération...
Pas de rouage intégral non plus pour la Kia K5 GT, si je ne me trompe pas.
La K5 GT il ne l'a pas, mais on peut l'avoir sur une K5 régulière.
Oui, effectivement, bon, voilà. Ce qui n'est pas le cas de la Sonata.
Exactement. Et j'ai trouvé avec la Sonata N-Line que l'effet de couple en accélération, c'est peut-être une question de perception, était un peu moins important que du côté de la K5 GT. Ça m'avait déçu à ce niveau-là. Mais une voiture franchement dynamique. Donc, une suspension réellement sportive sans être inconfortable. C'est certainement pas aussi ouaté que si vous optez pour une Sonata traditionnelle. Mais les sièges sont magnifiques. T'es très bien assis. C'est une voiture extrêmement bien assemblé. L'ergonomie, c'est 100 points. Je déteste une chose, c'est le levier de vitesse à bouton poussoir avec un délai de mise en fonction qui est vraiment agaçant. Donc ça c'est, je suis vraiment pas fan de ça, mais sinon, j'ai vraiment apprécié cette voiture-là. J'ai roulé un peu plus de 300 km avec la voiture hier pour terminer ma course à autour de 9 litres au 100. Il faisait moins 20 degrés. J'ai trouvé ça raisonnable. C'est le moteur 2.5 turbo qu'on retrouve aussi dans le Kia Sorento et dans le nouveau Hyundai Santa Fe. Donc, 291 chevaux dans ce cas-ci, jumelé à une boîte séquentielle double embrayage à 8 rapports.
Donc, sur le plan technique, c'est une approche sérieuse, là.
Bien, près de 300 chevaux dans une Sonata, là.
on commence à jaser, là.
Veux-tu que je te rappelle c'était quoi la puissance des premières Sonata? 110 forces, si ma mémoire est bonne. Mais les voitures qui étaient bâties à Granby, d'ailleurs.
Oui.
Mais il y a beaucoup
d'autres... Bromont, non?
Oui, Bromont. Excuse-moi.
On était dans l'Estrie,
sur l'autre bord de la rue. Puis, écoute, évidemment, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là, mais la Sonata, bien que c'est une voiture qui était rendue presque marginale sur notre marché, connaissait encore un certain succès aux États-Unis, là, on arrive avec une formule sérieuse. Depuis son retour, elle se vend très bien aux États-Unis. On n'est pas dans les chiffres de l'accord, encore moins de la Camry, mais on se démarque du reste de la compétition. Donc, vraiment, c'est un succès, cette nouvelle Sonata-là, contre toute attente, dans un marché qui est en décroissance flagrante.
Québec, par contre, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas dire que j'en ai vu des masses, mais
sûr, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas comme un Tucson,
non.
C'est sûr. Mais c'est une voiture qui se démarque. Et dans le cas de la version N-Line, je ne suis pas certain que ça va connaître beaucoup de succès chez nous parce que lorsqu'on est on est rendu à payer 38 ou 40 000 $ pour une berline, mm-hmm. on veut le rouage intégral au Québec. Ouais. Puis on ne l'a pas dans cette voiture-là, et c'est ce qui est dommage. Mais autrement, c'est franchement une bagnole dynamique, puissante, beau look, équipement ultra complet. C'est vraiment réussi comme bagnole. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est la qualité, la solidité de la voiture qui est impressionnante. Il y a des petits éléments de design qui, moi, me plaisent plus ou moins, là, mais c'est quand même une voiture qui est franchement réussie et qui est très, très performante en accélération. Et je veux mentionner, cette semaine, je critiquais un peu plus tôt le fait que le Sorento avait un délai à l'accélération qui était épouvantable. C'est vrai aussi avec la Sonata, mais dans une moindre mesure. Donc, c'est comme si on avait jaugé ça différemment, si on avait programmé l'accélérateur électronique de façon différente. Et la sonorité mécanique n'est pas du tout la même. On a travaillé chez Hyundai pour donner une sonorité mécanique beaucoup plus sportive que du côté du Sorento, évidemment, avec une boîte séquentielle qui est programmée différemment et qui n'a pas le même rapport final. Donc, ça change la donne aussi.
Ce qui peut donner une chance peut-être à la Sonata, c'est que par rapport à la K5, c'est que la K5, plus on monte en gamme, plus on peut être tenté de faire le saut vers une Stinger, par exemple, alors qu'on n'a pas d'équivalent chez Hyundai.
On n'a pas d'équivalent chez Hyundai, effectivement, mais on est
à moins d'aller chez Genesis, là, évidemment.
On n'est pas du tout dans les mêmes prix, parce que quand tu arrives dans une Kia K5 tout équipée à 40 000 $ ben pour faire le saut dans une Stinger, tu es au moins à 45 000 avec des valeurs résiduelles qui sont extrêmement faibles.
Non,
donc, il y a quand même un gros écart. Je t'avoue, par contre, que la Stinger, ça demeure pour moi une voiture que j'aime beaucoup, qui est dans une classe à part. Chaque fois que j'en croise une sur la route, c'est vraiment une auto que j'adore, bien que sa mise en marché fasse en sorte que le succès n'est pas nécessairement au rendez-vous, et c'est peut-être pour ça qu'elle ne reviendra pas après la génération actuelle.